malgré l'excellence de l'exposé précédent, on risque de marquer quelques désaccords, mais c'est bien, c'est pour l'intérêt du débat. Alors, j'espère que ça va pas, pour reprendre votre expression que j'adorais, j'espère que ça va pas foquer moi aussi. Alors, ok. Donc, je vais essayer de défendre ce beau petit diable qui est l'H-index. Et puis, comme vous en avez fait une analyse critique. Ah oui, est-ce qu'on a besoin du micro ?
C'est pour enregistrement.
Ah, excusez-moi, c'est vrai à chaque fois. Okay. Deux fois foqué.
Alors, le but de ma présentation, c'est un peu de peut-être réhabiliter, mais je ne savais pas que je devrais le faire autant, de réhabiliter un index qui actuellement fait beaucoup débat, qui est le fameux H-index. Alors, dans une large partie, ça va être une synthèse de ce que j'ai lu. Donc, 80%, ça ne va pas être extrêmement original si vous êtes intéressé vous-même à la pertinence de cet index. Et 20%, voilà, c'est un peu ce ratio, ça sera plutôt des considérations personnelles. Je vais faire cet exposé avec deux collègues, Jacques Reiss, qui a été extrêmement critique de l'H-index dans des interventions, notamment à l'Académie. Donc, je me suis servi beaucoup. Il ne pouvait pas être là parce qu'il est en Italie. Je me suis servi beaucoup de certaines de ses réflexions. Donc, c'est déjà, en fait, un travail collectif entre plusieurs chercheurs. Donc, le plan de la présentation, sans surprise, ça va d'abord être une définition. On a déjà presque eu la définition précédemment, mais je vais la rappeler, la clarifier pour ceux qui n'ont pas tout à fait connaissance de ce H-index. Définition du H-index. Analyse critique, évidemment, où je vais balancer les pros et les cons, mais je vais évidemment plus balancer les pros que les cons, parce que les cons, il y a déjà eu pas mal de choses. Donc, de manière générale, je suis pour, moi, l'utilisation du H-index, mais une utilisation qui est extraordinairement, intelligente, modérée, calibrée, et je vais vous montrer des motifs de calibration de cette utilisation, des recommandations d'usage. Ça sera la troisième partie, de fait, ça foque aussi, ça sera la troisième partie de mon exposé. Alors, définition du H-index, alors vous l'avez dit, c'est un compromis qui, à mon sens, est extrêmement ingénieux. Bon, c'est un physicien qui l'a trouvé, donc voilà, le compromis, il fallait le trouver, et je vais vous raconter pourquoi il fallait le trouver. C'est un compromis extrêmement ingénieux entre le nombre de publications d'un côté et l'impact référentiel de ces publications. Okay. Donc, on considère que, de fait, quand nous sommes scientifiques, je vais essayer de le rappeler, il faut évidemment non seulement publier, hein, on a une espèce d'obligation de publication qu'on va essayer de rappeler, mais vous l'avez rappelé, et non seulement publier, mais il faut que vos publications aient un certain impact. Et l'impact en science est assez facile, c'est l'impact référentiel, c'est-à-dire la manière dont vos pairs vous référencient. Et donc, il fallait combiner, on va comprendre pourquoi, il fallait combiner, puisque depuis tout temps, on s'est intéressé à ces deux aspects du chercheur. Les publications, la quantité de publications et l'impact que ces publications produisaient. Et il fallait combiner ces deux manières de valider le travail. Alors, si votre H-index est X, c'est qu'en effet, vous avez publié X publications qui ont chacune reçu plus de X références. Donc, le truc ingénieux, si vous voulez, de ce physicien, de Hirsch, c'est d'avoir retrouvé un même nombre X qui, à la fois, témoigne du nombre de publications, X publications. Donc, de fait, il a combiné deux indices que vous jugez incombinables, que moi je juge combinables, on pourra en discuter, c'est un vrai débat en soi. Il a combiné le nombre de publications et l'impact de vos publications sur les autres par un même nombre. Et on verra comment on peut le calculer, ce H-index. Alors, très rapidement, mais là je vais surprendre personne, évidemment vous avez cette obligation en science de publier et référer, et je prends une de mes publications préférées. Je ne sais pas si vous avez eu un jour la chance de lire une publication de Georges Perec, mise en évidence expérimentale d'une organisation tomatotropique chez la Soprano. Grand papier, puisque déjà Georges Perec, à son époque, se moquait un tout petit peu de cette espèce de religion de la publication, cette espèce de préscience de la publication. C'était évidemment un article factice. On en connaît d'autres depuis. Celui de Georges Perec est un de mes préférés, parce qu'il a évidemment tout de l'article scientifique. La partie, évidemment, la plus jouissive de cet article, c'est notamment les références. Vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais les papiers, c'est extraordinaire. C'est des termes qui n'ont... Les titres d'articles n'ont absolument aucun sens. Les auteurs non plus, puisque le premier, c'est Alka-Seltzer. Celui qui publie le plus, c'est Chou Enlai. Il faut se remettre à l'époque de Georges Perec. Et c'est facile. Lisez-le, ce papier, parce que c'est extraordinaire. Il y a tous les travers, en fait, de la religion de publication dans ce papier. Alors, pourquoi publier et référer ? C'est bon peut-être de le rappeler. Évidemment, la première raison, c'est qu'il faut faire connaître vos travaux. Je pense qu'il y a une responsabilité du scientifique. Moi, je connais énormément de scientifiques, parmi d'ailleurs de très, très bons amis, qui refusent le jeu de la publication. Et ce sont des excellents scientifiques, des gens qui ont certainement un QI, qui flirtent avec les sommets, mais ils n'aiment pas le jeu de la publication. Évidemment, ils sont directement balancés dans les indices, et parce que leur indice se flirte là avec les planchers. Mais on a une obligation. L'obligation, évidemment, de faire connaître ses travaux, mais plus encore, évidemment, la publication, c'est d'accepter de se faire évaluer par ses pairs. Donc ça, c'est une obligation en science. Il y a cette idée, évidemment, un tout petit liée, si vous voulez, à la science, c'est que la vérité scientifique passe avant tout. On a du mal, hein, vous savez, il y a beaucoup de philosophes qui se sont penchés sur qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique. Mais enfin, un point sur lequel on est relativement d'accord, en tout cas les scientifiques acceptent de jouer le jeu, c'est qu'un travail d'une certaine qualité scientifique, quand il reçoit une espèce d'évaluation positive par une certaine quantité de pairs qui eux-mêmes, il y a un effet récursif dans ces définitions, qui eux-mêmes ont été reconnus par la communauté comme étant des gens d'un certain talent, etc. Donc il y a cette idée, ce jeu auquel nous nous livrons tous, qui est de se d'exposer, si vous voulez, vos travaux aux pairs et que les pairs portent un jugement, ils acceptent ou ils refusent vos travaux. Et c'est évidemment donc du coup aussi l'obligation de référence parce que les pairs reconnaîtront d'autant mieux, et là il y a une perversion, on en parlera de cette perversion, qu'ils sont cités, parce qu'une certaine manière vous pointez le doigt sur les personnes qui seraient peut-être le plus à même de vous évaluer, qu'ils sont cités et qu'ils vous citent en retour. Donc il y a un jeu de co-citation, quand il est fait honnêtement, hein, sans perversion, est un jeu relativement simple puisque c'est de fait... Il y a un truc intéressant, je me suis toujours demandé pourquoi en science on était obligé de publier, parce que bon, je peux donner un autre exemple, je suis fan de jazz, et quand un musicien propose une œuvre de jazz, une improvisation en jazz, au moment de l'improvisation, il ne cite évidemment pas tous les pairs, et Dieu sait que le jazz fonctionne évidemment par influence, il ne cite pas tous les pairs qui l'ont influencé dans son improvisation. Donc il y a beaucoup de disciplines intellectuelles où on ne vous oblige pas à la citation, on ne vous oblige pas à la référence. Pourquoi est-ce qu'en science, on vous oblige à cet exercice hein, de référence? Je pense qu'il y a une raison peut-être philosophiquement profonde de cela, c'est qu'à la différence des arts, ou à la différence d'une discipline qui n'a pas justement cette connexion réelle, hein, où on veut viser souvent dans les disciplines artistiques des ruptures carrément créatives, épistémologiques, etc. En science, on est très très méfiant à l'égard de ces ruptures épistémologiques. On considère qu'il y a une lecture du monde qui doit être relativement continue, parce que le monde est relativement stable, et c'est vrai. Vous l'avez mentionné, surtout du monde de la physique et des électrons, ça l'est sans doute un peu moins vrai de la réalité économique et de la réalité sociale. Mais pour les physiciens, il y a une certaine stabilité du monde. Donc, il y a une généalogie de publication. Ce qu'ont dit mes prédécesseurs doit rester encore valide. Et donc, je vais les citer pour m'inscrire dans cette généalogie, me servir de ce qu'ils ont fait comme tremplin pour mes travaux. Et je pense que c'est vraiment lié. C'est pour ça que ces citations sont de plus d'importance encore dans le monde des sciences dites exactes, sciences de la nature, qui sont évidemment celles qui sont le plus faciles, entre guillemets, à valider expérimentalement. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit, les références comptent un peu rendre compte de la stabilité du réel. Alors, comment on le calcule? Alors rapidement, comment est-ce qu'on calcule le H-index? Alors j'ai pris un chercheur, j'étais surpris de le découvrir. Alors, je ne savais pas qu'il avait une double casquette. Son H-index est moins brillant que la vente de ses disques, c'est évidemment pas le même, mais j'en cherchais un surtout qui avait une caractéristique facile, c'est que son H-index était bas. Alors c'est intéressant parce qu'avec son H-index bas, on voit exactement comment c'est calculé. Alors c'est pris de Google Scholar, je parlerai de l'influence Google aujourd'hui dans la puissance évidemment, de ces, puisque Google est en train de réaliser une googlisation du monde, et Google Scholar est un de ces exemples, mais il y en a beaucoup plus d'exemples de classement, de prépondérance des classements grâce à la facilité de Google. Aujourd'hui, Le H-index calculé par Google n'est pas forcément celui qui est le plus objectivement validé pour un tas de raisons. On pourrait en parler, c'est très technique, c'est très pointu, mais c'est le plus facilement accessible. Tous les autres ont une nécessité d'inscription, de paiement, alors que Google, c'est un clic. Et donc, c'est aussi la puissance, et c'est pour ça que je me base sur celui-là, le Google Scholar. Alors, comment ça se calcule le H-index? Bon, ici, David Bowie... un H-index de 5. Alors, vous voyez qu'il avait fait une première publication qui a été citée 24 fois. Alors, bon, si on se limitait à ça, il aurait un H-index de 1, hein, puisque 24, c'est supérieur à 1. OK, on est d'accord, puisque c'est le nombre qui est supérieur. Bon, mais heureusement, il en a fait une deuxième, 19 citations, qui est supérieure à 2. Et puis une troisième, 12, qui est supérieure à 3. Une quatrième, 9, qui est supérieure à 4. Et puis, il y en a une qui a fait 8 références, qui est supérieure à 5. Et la sixième, 5, elle n'est pas supérieure à 6, donc on s'arrête là. Okay, vous avez tous compris le truc? C'est comme ça qu'on calcule le H-index. Bon, c'est ingénieux. On en discutera, si vous voulez, puisque vous l'avez critiqué. Mais c'est assez ingénieux, puisque de fait, ça rend compte, évidemment, en effet, du grand nombre de vos publications et de l'impact référentiel de ces publications. Okay, vous avez tous compris comment on le calcule. Vous savez tous ce que c'est le H-index maintenant. Alors, analyse critique, allons-y. Alors, faut-il classer les chercheurs? On en a beaucoup parlé. À mon sens, oui, pour deux raisons évidentes. C'est que, en effet, et on en a parlé, le premier exposé l'a illustré assez clairement, il y a une transition en cours entre le jeu démocratique et le jeu technocratique, où de fait, il y a de plus en plus besoin de pouvoir identifier des experts. Dans un tas de domaines, aujourd'hui, on considère que la complexité du monde est telle que, en plus du jeu politique, il y a besoin d'expertise et que, de fait, un indicateur, quelle que soit sa validité, permet de repérer certains chercheurs qui peuvent se prononcer et, de fait, quitte à identifier dans la masse, autant essayer de prendre ceux dont un indicateur peut nous montrer la pertinence. Et puis, évidemment, la deuxième raison, c'est la progression de carrière, c'est les classements, c'est l'enjeu économique, c'est l'enjeu financier. Il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout le monde, donc il y a une pyramide qui se crée. Et dans cette pyramide, il y a un classement. Alors, on peut évidemment discuter des travers et des méfaits des classements, mais dès qu'il y a un nombre de ressources limité et qu'il y a plus de candidats, évidemment, que d'argent ou que de prix ou que de quoi que ce soit à distribuer, un classement est obligatoire. On n'a pas trouvé autre système pour rétribuer. Et donc, ça, c'est évidemment la pertinence d'un nombre qui est le H-index. Alors, les avantages, si comme moi, alors sans doute vous y avez participé puisque vous aviez l'air d'avoir une expérience importante comme moi, si comme moi vous avez participé à de nombreux des comités d'évaluation, vous savez que depuis toujours, enfin, je participe à ce genre de comité depuis une trentaine d'années, depuis toujours, on a essayé de contrebalancer le nombre de publications et l'impact référentiel de ces publications. Et de fait, l'impact des revues, c'était déjà ça. Et je me rappelle de séances interminables, épouvantables, en disant « Oui, mais il a publié dans Nature, mais il a publié dans le journal de l'effet des tomates sur le cerveau, pour reprendre le fameux article de Georges Perec. Et l'effet des tomates sur le cerveau, c'est quand même moins important que Nature. Et pourquoi est-ce que l'effet des tomates sur le cerveau, fameuse revue américaine, c'est moi, alors que c'est sa revue à lui, pourquoi c'est moins important que Nature? Parce que, de fait, Nature a un impact de 25, je ne sais pas. Et le journal spécialisé sur les tomates sur le cerveau, c'est un impact de 1. Donc, depuis toujours, toutes les discussions, j'ai 30 ans de discussion, une centaine de comités comme ça, c'est de combiner le nombre de publications et l'impact de ces publications en termes de référence. Ça, c'est une constante. Dans tous les comités, c'était comme ça. Et j'ai assisté à des tentatives désespérées de mêler ça par un critère arithmétique. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on évalue les chercheurs. Donc, du coup, l'Arch-Index a été une libération avec ses travers. C'était le nombre qui réalisait cette opération mystérieuse qui permettait de combiner le nombre de publications et l'impact qu'elles avaient. De fait, cela rend compte, par un seul nombre, il faut voir aussi la puissance du nombre, cela rend compte de la rencontre entre la production et l'impact simultanément. Et de fait, on accepte qu'en science, le référencement fait partie de la qualité, parce que quand vous êtes référé, pour des raisons que j'ai dit, c'est que vos travaux ont marqué une généalogie, d'autres se référeront de vous, et donc je pense que c'est en effet exact que les références témoignent de l'impact d'un certain chercheur. Alors, évidemment, il y a le fait qu'un nombre, c'est mieux que 2, c'est mieux que 3, c'est mieux que 4. Ça, c'est la force de Google, de mettre des nombres partout et des seuls nombres. Vous évaluez maintenant les restaurants, vous évaluez les hôtels, vous évaluez le nombre de likes, vous évaluez quoi que ce soit, quelle que soit l'initiative que vous prenez aujourd'hui dans votre vie artistique ou professionnelle, directement, vous êtes associé à un nombre. Google, c'est la magie, trouve directement un nombre qui permet, vous savez, la naissance même, la généalogie même de Google, le PageRank, c'est un nombre. Après, de fait, on sait que par la suite, il y a beaucoup d'autres nombres qui se sont associés. Mais le succès au départ de Google, c'était un nombre, qui était ce fameux PageRank. Quand vous avez un nombre, c'est plus facile que 2. Je ne vais pas ici, vous l'avez évoqué, je ne vais pas entamer les problématiques d'évaluation multicritère. Un nombre, vous n'avez pas le multicritère. 2, ça devient difficile. Vous prenez la moyenne, vous prenez la somme. Qu'est-ce que vous faites avec deux nombres? Vous n'avez pas ces difficultés avec un nombre. C'est aussi la raison du succès de l'H-index. Et en fait, tous ceux qui défendent le H-index constatent que ça se corrèle relativement bien avec les talents que d'autres moyens ont officiellement reconnus. Bon, par exemple, les prix Nobel, les prix Frankie, c'est très très rare quand même d'avoir un prix Nobel ou un prix Frankie dont l'H-index est de 5 ou de 6 ou de 7. C'est-à-dire que clairement, il y a une corrélation, je n'ai pas calculé cette corrélation, entre l'attribution des prix et la valeur du H-index. L'autre avantage d'un nombre, c'est qu'on peut l'utiliser pour d'autres évaluations, parce qu'il s'additionne facilement. On peut l'utiliser pour les labos. Il suffit de sommer tous les H-index des chercheurs et vous pouvez comparer les labos entre eux. On peut l'utiliser pour les universités. Il suffit de sommer tous les H-index des chercheurs des universités ou les moyennés, si vous voulez, et vous pouvez comparer les universités sur ce critère-là, hein, qui est la qualité des scientifiques. Donc, vous voyez toujours l'avantage du nombre. Alors, les défauts, ils sont très, très nombreux. Vous en avez évoqué quelques-uns. Donc, c'est premier, qui est très technique, mais c'est intéressant de faire la recherche. Je ne vous montre pas les résultats ici. Jacques Rey, c'était un de ses premiers critères pour enfoncer un tout petit peu l'H-index. C'est quand vous regardez les bases de données qui ont été choisies, bien de fait, il n'y a pas toujours de corrélation parfaite entre le choix de certaines bases de données. Par exemple, Google Scholar, qui est celui que je vous ai montré pour David Bowie, surestime systématiquement par rapport aux autres. Parce que c'est la puissance, justement, de cette base de données que Google réussit à constituer. C'est que presque n'importe quoi que vous avez publié qui a été référencé fait l'objet du calcul du H-index, alors que certaines autres bases de données sont beaucoup plus sélectives. Bon, il y a des corrélations qui ont été faites, rentrons pas dans le détail, considérons même qu'il faudrait moyenner entre toutes les bases de données qui existent en matière scientifique. C'est un outil purement syntaxique. Attention aux problématiques, je parle des défauts évidemment de cet outil. Attention aux problèmes d'homonymie, attention évidemment aux ambiguïtés d'orthographe, etc. Même dans notre université, je me rappelle, il y a deux Thierry Massard et il y a deux Pierre Gaspard. Et bon, voilà, faites attention quand vous mettez le nom dans Google Scholar qu'il s'agit bien du bon. Et ce n'est pas toujours facile. Je connais énormément de personnes qui ont profité de cela parce que c'est un outil purement syntaxique et qui se jouent de ça pour rehausser leur H-index en se faisant évidemment passer pour un autre. C'est un index, vous l'avez dit, c'est un index très, très disciplinaire. Et là, il y a énormément de manières de contrer, si vous voulez, le défaut de cet index. Vous pouvez le renormaliser selon les disciplines. C'est proposé, certains le font. Pourquoi c'est un index très disciplinaire? Parce que, de fait, vous avez des traditions de publication très différentes, vous l'avez aussi mentionné, des temporalités très différentes d'une communauté à l'autre. Donc, je crois qu'il faut évidemment prendre conscience de l'effet communauté, et même dans une communauté, je dirais, l'effet disciplinaire dans cette communauté. C'est-à-dire que même si vous travaillez en médecine, il n'est pas évident qu'en urologie ou en cancérologie, il y ait une même tradition de publication et que les H-index. Donc, il faut vraiment, évidemment, prendre en considération l'effet communautaire. Par exemple, les plus hautes valeurs du H-index, 160, c'est quand même considérable. C'est dans le domaine typiquement de la médecine, de la cancérologie, où il y a des traditions de publication. Par exemple, on publie à 200 auteurs. C'est très fréquent de publier à 200 auteurs. Donc, vous bénéficiez évidemment de cet effet de masse quand vous êtes parmi 200. Il y a aussi une tradition de publication rapide, parce que la médecine doit aller vite. Donc, il y a des traditions qui font qu'en effet, les plus hauts H-index, 160, 140, vous vous rendez compte, c'est quand même considérable. C'est dans des domaines où, de fait, cette tradition de publication est mise en œuvre. Ne prends pas en compte les auteurs multiples. 200, vous êtes X dans 200 et vous publiez dans une équipe évidemment extrêmement productive. Ça ne veut pas dire que vous êtes bon. Ça veut dire que vous êtes une petite main dans une équipe qui est par ailleurs extrêmement créative. J'ai presque fini. Donc, combien de temps j'ai encore? Ah, c'est fini. Bon, je vais finir. Alors, je suis fini parce que c'est 2 minutes, juste. Alors, c'est un index cumulatif très sensible à l'âge. Très sensible à l'âge, évidemment, mais ça vous l'avez dit aussi. Les jeunes sont évidemment pris en défaut par cet index, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de beaucoup publier, mais ça, on le sait aussi. Vous pouvez renormaliser cet index avec l'âge, il n'y a pas de problème. C'est un index très jeune, donc toutes les publications de personnes de 60 ans qui datent d'avant 90, elles ne sont généralement pas prises en compte. Voilà, il y a beaucoup de défauts. Alors, je suis très sensible, évidemment, à ce que vous dites. J'ai eu l'occasion, moi aussi, d'écrire un ouvrage où je me suis ému de la poussée compétitive, de la prépondérance de cet index et de tous les effets pervers, avec un bouquin qui s'appelait « Arros sur la compétition », parce que je m'étais affolé de la recrudescence de ces indicateurs dans un tas de sphères sociales, et pas que la science, aussi les hôtels, aussi les restaurants. Quoi que vous fassiez, je le répète aujourd'hui, se prête à une évaluation. Et il y a tous les travers qui y sont associés. En publication, c'est faire de la science sexy, c'est publier à outrance, c'est coller aux stars, c'est forcer les citations, c'est les dérives, les fraudes. C'est très facile aujourd'hui, d'une certaine manière, d'avoir un OH index. Je fais 100 publications, ou je demande à certaines personnes d'en faire 100, ou j'invente les auteurs de 100 publications, j'en fais moi-même 100, et je me profite de ces 100 inventions pour me citer 100 fois, et j'ai un H index de 100. Donc on pourrait biaiser complètement le système, c'est très difficile parce qu'il faudrait que ça soit reconnu, mais il y a des gens qui se sont prêtés à cet exercice, qui ont des H index de 100 et qui sont absolument inconnu dans le monde de la science. Donc, je finis, hein, je te promets, recommandation d'usage, parce que je pense, à la différence sans doute de mon prédécesseur, qu'il faut utiliser l'H-index, mais avec énormément de prudence. Soyez sûr, évidemment, du nom du chercheur, à combiner, bien sûr, avec d'autres indices selon les postes à pourvoir et les fonctions assignées. Quand vous élisez un académique, enfin un professeur, ça n'a rien à voir avec un chercheur. Bien sûr, on le fait dans notre université. Les fonctions d'enseignement, les fonctions de service rendu à la société sont tout autant prises en considération que la qualité scientifique via le H-index. Je pense que pour le FNRS et que pour les chercheurs, le H-index a évidemment une importance beaucoup plus importante que dans le corps académique ou même pour l'expertise. Si vous êtes expert en réchauffement climatique, malgré la hauteur du H-index de Claude Allègre, je ne suis pas persuadé que Claude Allègre soit, et qu'il y a un H-index de 70, quoi, qu'il soit le meilleur défenseur aujourd'hui des causes climatiques. Donc, bien sûr, combiné avec pédagogie, psychologie, collaboration, sociabilité, disponibilité, à relativiser selon la discipline, selon l'âge, selon le nombre d'auteurs et le positionnement de ces auteurs. C'est très important en science, il y a des traditions de positionnement. Ne pas enquiquiner les jeunes chercheurs. Pas de H-index avant 30-35 ans. C'est débile parce que ça favorise des recherches à court terme, alors que typiquement, les chercheurs doivent se lancer dans des aventures à long terme. N'emmerdez pas les chercheurs de 30-35 ans avec les H-index. En revanche, je pense qu'il a une grande utilité entre 35 et 55. Là, l'impact est fait. D'une certaine manière, vous n'avez pas fini votre carrière, mais je pense que c'est un H-index. Il y a énormément de validité dans cette gamme d'âge. À relativiser tout court, 40, c'est supérieur à 5. Je ne suis pas persuadé qu'un chercheur ayant un H-index de 30 soit tellement meilleur qu'un chercheur qui a un H-index de 20 selon les critères. Donc, avec une large fourchette, comparez pas 40 et 20, comparez pas 40 et 30, comparez 40 et 5, mais pas 40 et 30. Être très attentif, et c'est mon dernier, je te promets, Edwin, être très attentif aussi, mais ça, c'est un long débat et ça nous emporterait, parce que j'ai voulu vraiment être très pointu ici, mais être très attentif aux dérives. Préserver, bien sûr, la curiosité, la prise de risque, le long terme. Quand tu disais, Bruno, qu'il fallait ne pas fermer les critères d'évaluation et presque chaque année les réouvrir, c'est un peu ça. Bien sûr, il faut être conscient qu'un jeune chercheur qui prend un risque, qui se lance dans un domaine de recherche nouveau, qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'être très apprécié, c'est une prise de risque qu'il faut encourager. Okay ? Donc, préserver le long terme et la collaboration. Voilà, je termine là-dessus.